Pourquoi dans la Torah nous voyons des notions qui sont un peu impalpables? Enfin, quel est le sens de ces notions-là? Les notions d'impureté. On voit qu'un mort rend impur. On voit que lorsqu'on rentre dans les toilettes, on doit se laver les mains. Lorsqu'on se lève du sommeil, on doit se laver les mains. Lorsqu'on touche cette partie du corps, on doit se laver les mains. Qu'elle se coupe les cheveux, il doit se laver les mains. Donc on voit qu'il y a... On se coupe les ongles. Alors, quel est exactement le sens, si on peut donner un sens là-dessus? Alors, les notions d'impureté, évidemment, c'est une notion irrationnelle par excellence. On peut voir un dénominateur commun des choses impures, c'est lorsqu'il y a eu un potentiel de vie qui ne sera pas réalisé. Il y a la vie. Dieu a créé la vie et la mort, le bien et le mal. La mort, qu'est-ce que c'est? La mort en elle-même, c'est rien. On dit une chose qu'elle est morte quand on dit qu'elle était vivante. Elle était vivante. Une chose qui n'a pas de potentiel de vie ou n'a pas été vivant, alors on ne peut pas dire qu'il est mort. Il n'y a rien. Mort signifie potentiellement vivant. Lorsqu'il y a un potentiel de vie qui ne sera pas réalisé, ou une chose qui se sépare de la vie, donc qui meurt, il y a mort. Alors par exemple, quelqu'un qui meurt, c'est l'exemple numéro un. Qu'est-ce que c'est? Il y a un corps. Ce corps était habité par une âme qui lui donnait la vie. Il agissait, il réalisait des choses très grandes. Lorsque ce corps-là, qui est le keli, c'est-à-dire l'instrument de la réalisation, il arrête d'être instrument de réalisation. Et c'est un potentiel, un instrument qui pourrait être utilisé pour faire, il ne fait plus. On appelle cela tamé, mort. Donc plus le potentiel est grand, plus la touma sera grande. Je prends maintenant un verre, il est plein. Je le vide. Je prends maintenant un tonneau, il est plein. Je le vide. Qui est plus vide? Alors, les deux sont vides. Lequel est plus vide? Les deux sont vides. Mais il y a un dans lequel le vide est plus grand. Le tonneau. Parce qu'il y a un potentiel plus grand, il y a une touma plus grande. Avis à votre touma, dans les lois de touma, c'est une loi très compliquée. Le père des pères de la touma, c'est-à-dire l'archétype de la touma, c'est le mort, l'homme mort. C'est le plus grand potentiel de vie qu'il y a sur terre. Une femme nida, une femme qui a sa période de menstruation, elle est nida. C'est pas que c'est sale, c'est tamé. Même si elle était une fois de la menstruation, après pendant 50 années elle n'a plus de menstruation, elle reste tamée, elle reste impure. Et si un homme a une relation avec elle, alors il transgresse un interdit des plus graves de la Torah, karet. C'est un interdit, mieux vaut transgresser, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Sa femme, qui est ma femme, qui est Nida, elle était Nida il y a 50 ans, c'est tout. Après, elle a eu un problème d'hormones, elle n'a plus de menstruation du tout, elle est tamée, elle est impure, et la relation avec elle est interdite, au point que d'après la Torah, c'est dur, je sais que ça peut choquer des gens, mais c'est marqué noir sur blanc. La référence est Hérodéa Kouf Tzadik Hei, à la fin du Hérodéa. Et Rav Chaim, dans son livre Mahane Israël, dans le 4e chapitre, le dit très très clairement, c'est un des interdits de Yareg de Baliavor. Mieux vaut transgresser, mieux vaut se faire tuer que transgresser. On parle ça de façon volontaire. Involontaire, volontaire, ok. À moins qu'elle fasse bien sûr le processus de pureté. Très bien. Si elle fait, il y a un processus de pureté à faire. Les 7 jours, plus le mikvé, enfin, il y a tout un processus, c'est pas le lieu d'en parler. Et si on fait pas ce processus, alors elle reste dans son impureté. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ici un potentiel de vie très grand qu'elle avait donné la vie. Lorsqu'il y a une menstruation, c'est quoi la menstruation? Ce sont les muqueuses vaginales qui se désagrègent. Il y avait ici comment on appelle ça?
Matrice.
Bétite, voilà, en hébreu la bétite, en français, l'ovaire, l'ovule, l'ovaire qui fait des ovules, d'accord, l'ovule descendait dans la trompe, et il y avait un potentiel de le féconder et d'en faire un être humain. Ce potentiel n'a pas été réalisé, donc il y a ici, Touma, il y a une vie, un potentiel de vie qui doit être réalisé, qui n'est pas réalisé, donc mort. Elle l'attire vers elle, c'est quoi le mot Nida? Nad est parti, hey, c'est le nom de Dieu. Après elle va au Migvé, c'est quoi les lettres du mot Migvé? Même c'est Maïm, O, Kav, c'est un lien. Hey, vers le Hey. Tu refais revenir le Hey. C'est pour ça que le Migvé c'est nécessaire. Une bonne douche ou un bon bain ça sert à rien, il faut un migvé. On parle des choses irrationnelles ici, on parle au niveau des âmes. Quelqu'un qui a une qu'on appelle ça la semence, une séminaison, les batala ou pas les batala, il a
une
paire séminale, paire séminale ou relation, où il n'y a pas de perte. Mais néanmoins, il y a une partie de ce sperme qui ne sera pas utilisé, donc il y a de la vie qui n'est pas réalisée, donc il y a mort, donc il y a impureté. Du temps, il y a 2000 ans, jusqu'il y a 2000 ans, il était interdit d'étudier la Torah si quelqu'un avait une perte séminale, en relation ou hors relation, parce qu'il est tamé. Chazal ont aboli cette interdit, ils ont dit c'est pas une chose, on a une loi, quand c'est une loi des Rabbanan, enfin, la majorité du public ne peut pas la suivre, on l'abolit. Alors la majorité du public ne pouvait pas, parce qu'à l'époque c'était pas les migvés chauds qu'on avait aujourd'hui, il fallait aller dans les grottes en plein hiver, d'accord, c'était pas chauffé, dans le froid, dans la nuit, dans... alors qui tenait le coup. Donc c'était aboli. Aujourd'hui qu'il y a les migvés chauds, c'est très conseillé d'aller après une relation avec quelqu'un qui est marié, avec une relation plus forte raison pour quelqu'un qui n'est pas marié, c'est une sémination en vain, d'aller au migvé avant d'étudier. C'est important. Pas obligatoire, mais c'est bien. D'autres exemples, quelqu'un coupe les ongles, il faut laver les mains après, faire une netlat yadaim. Pourquoi? De nouveau, il y a une partie ici de vie que j'ai éliminée. C'est quelqu'un se coupe les cheveux. Toutes ces parties-là, quand on fait une de ces actions-là, il faut après se laver les mains. Alors, c'est pas les mains. Normalement, on devrait se tremper entièrement au mikvé.
Le potentiel des ongles.
Alors, très bien. Tu as une partie de vie ici, n'est-ce pas? Maintenant, cette partie de vie, elle appartient à cet ongle-là. Il fait partie d'une chose qui est vivante. Quand tu le coupes, il devient mort. Chaque chose qui est vivante, qui devient mort, donc il y a un, c'est pas un tonneau ici, ça sera une petite capsule, d'accord, qui était pleine de vie que tu as vidée, donc il y a du vide. Vide égale mort.
Cheveux
aussi.
Mais il y a
un crotte à barbe. Les daïmes après.
La barbe, on n'a pas besoin.
La barbe, non. La barbe, non.
Pourquoi?
Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a des endroits où le potentiel de vie que tu enlèves, il amène plus. Comment expliquer cela? Il est interdit d'avoir les cheveux longs, c'est pas bien, à l'arrière. Il est interdit d'avoir les ongles longs, c'est pas bien non plus. Parce que c'est marqué que je parle de choses maintenant tout à fait irrationnelles, kabbalistiques, d'accord? Parce que les forces négatives, elles ont besoin, la mort, elle a besoin de vie pour vivre. N'est-ce pas? Les forces de mort, elles ont de la force, elles ont de la vie. Si il n'y a que de la mort, ben il n'y a plus rien. Tu me suis? Si tu as maintenant une chose qui est complètement morte, alors elle est, elle n'est pas. Si on parle de force de mort, ce sont des forces de mort qui ont dedans un peu de vie. Sinon, elles ne vivraient pas, ces forces de mort. Le jour où tu retires les étincelles de vie de la mort, ben, il n'y a plus de mort. Elle n'est plus. Elle n'est plus. Les forces de mort ont besoin de vie pour vivre. Ces forces de mort s'attachent au niveau irrationnel, c'est des choses de Kabbalah, de mystique juive, au bout des ongles. Et aux cheveux. Il faudrait que si quelqu'un rêve, par exemple, qu'il a les cheveux longs, c'est pas bon signe. Ça veut dire que il y a des dynimes sur lui, qu'il y a des forces négatives sur lui. Si au contraire il rêve qu'on lui rase les cheveux, c'est un très bon signe. Et la barbe, c'est le contraire. La barbe, c'est la face. C'est le flux. Comme la face de Dieu, on est fait à l'image de Dieu. Donc c'est bien d'avoir une barbe. Vous voyez ? Il y en a qui ont des longues barbes, des belles barbes, d'accord ? C'est bien d'avoir une barbe parce que ça correspond à un flux de Dieu. Et là, donc, quand tu enlèves, quand tu coupes les cheveux de la barbe, vu qu'il n'y a pas ici les forces du négatif qui sont attachées, donc pas besoin de se laver les mains. C'est précisément quand on coupe les ongles et quand on se coupe les cheveux qu'on doit se laver les mains. Quand on va dormir, Ben Yisra explique comme cela, qu'est-ce qui se passe ? Tu as ton corps qui est habité par ton âme. Quand tu vas dormir, une partie, pas tout, mais une grande partie de l'âme, elle part. Il reste que très peu. Tu vois que le type, il est pas là, tu l'appelles, eh oh, lève-toi, il a ronflé. Donc, il n'est pas là. Il est parti. Quand il revient, quand le corps est vide, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas vide. Il y a un verset dans la Torah. Lorsque Bnei Israël ont jeté Yosef dans le puits, c'est marqué, va bord, un puits qui était vide, d'accord, un trou qui était vide. Va bord rek en bomain. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Agmar dans Shabbat, page 21, dit, tu me dis que le puits était vide. Donc c'est très bien qu'il n'y avait pas d'eau. Pourquoi tu me répètes, il n'y avait pas d'eau? Tu me dis, il est vide et il n'y a pas d'eau. C'est une répétition. Quand tu me dis qu'il est vide, j'entends bien qu'il n'y a pas d'eau. Il est vide. Mais là, j'apprends qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. De l'eau, il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais autre chose, il y a. Comme tu dis que... je te dis, il n'y a pas... un exemple. Il y a des légumes à la cuisine. Tu dis, il n'y a pas de patates. Tant, résultat, il y a des concombres. Enfin, d'autres sortes de légumes. Bon, c'est très technique dans la Gemara. Si tu me dis, une chose est vide, et il n'y a pas d'eau, ou l'eau n'y a pas, on entend de l'eau, il n'y a pas, mais autre chose, il y a, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ou des chazal, des scorpions, des serpents. Qu'est-ce qu'on apprend de cela ? Vide, ça n'existe pas. Vide, il n'y a pas vide. Où il y a de l'eau ? L'eau, c'est la Torah, toujours. Où il y a des serpents et des scorpions. On ne peut pas avoir une situation, une chose qui est neutre. Ou tu avances, ou tu baisses. Ou tu es plein de vie, ou s'il y a un vide de vie, le vide il est rempli par la mort. La mort, c'est ça sa caractéristique, elle remplit le vide. La mort signifie non-être, non-vie. Partout où tu as de la non-vie, tu as la mort qui vient. Mort égale non-vie. Partout où tu as un manque de vie, tu as de la mort. Donc quelqu'un qui dort maintenant, il y a de la vie qui part. Qu'est-ce qui rentre à la place ? La mort, des forces négatives. Le matin, dring, il faut se lever, qu'est-ce qui se passe ? L'âme dit, elle redescend dans le corps. Des fois facilement, des fois difficilement. Qu'est-ce qui se passe quand elle rentre dans le corps ? Les forces de mort, elles doivent partir. Elles partent où ? Elles, de tout le corps, elles partent dans le bout des doigts. Elles viennent dans les bouts des doigts. Vous savez qu'on doit prendre de l'eau. L'eau, c'est toujours... Je n'aime pas dire le mot symbole de la vie, parce que c'est pas symbolique, c'est dans la réalité mystique des choses, c'est cela, d'accord ? Pour les kabbalistiques, d'accord, mind, c'est une valeur numérique 90, dans les quatre façons d'écrire le nom de Dieu, Ab, Sag, Ma et Ban, qu'on a étudié dernièrement, il y a 9 fois la lettre Yud. Donc tout le chesed de Dieu, il est dans l'eau. Je ferme la parenthèse. C'est des notions un peu mystiques dont parle le Ben Yisra'el. Donc quand tu prends de l'eau, tu purifies. Alors pourquoi je mets l'eau sur les mains ? Parce qu'au bout des doigts se trouve toute l'impureté. C'est clair ? Quel exemple nous avons encore ?
Cimetière,
bah, c'est le lieu des morts par excellence. J'ai lu dernièrement une tchouva. Pardon ? Tu as des tas de tonneaux vides, des tonneaux qui étaient pleins, et qui maintenant ils sont vides. Mais vu qu'il n'y a pas vide, qu'est-ce qu'il y a à la place ? Toute la mort, toutes les forces négatives. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est quoi un cimetière ? Dans le désert, c'est vraiment vide, il n'y a rien. Ni des morts, ni des vivants. Vide, rien. Mais quand tu as maintenant dans un cimetière, tu as des tonneaux qui étaient pleins de vie, et maintenant ils sont vidés de leur contenu. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce vide ? La mort qui vient, les forces négatives. Donc, le lieu par excellence des forces négatives, c'est le cimetière. On n'y va que s'il y a besoin.
Ah, si je fais un petit insecte sans faire exprès, je veux faire un étudiant.
Oui, ça peut aussi.
Mais pourquoi quand on se verra qui cuire chevelu, on veut faire un étudiant?
Pour question de propreté, là, c'est autre chose. Quelqu'un qui se gratte le cuir chevelu, ou se met les doigts dans les oreilles, ou dans le nez, pas dans la bouche et pas s'il saigne, ça c'est pas considéré comme des saletés, c'est considéré qu'il s'est salé les mains. Cuir chevelu, oreille, nez, et les parties internes, les parties qui sont couvertes du corps. Tu vas, tu te grattes la poitrine, alors qu'elle est couverte, d'accord?
Avec de l'eau, on nettoie rien.
Pardon?
Avec de l'eau seulement, on nettoie rien. Et quand on fait les ablutions avec le Kelly, etc., on met pas de savon.
Pas besoin ni de savon, ni d'ablution. Sous le robinet. Qui te parle de bactéries maintenant?
Si c'est une question de propreté, c'est pour ça.
Ouais, mais c'est pas une partie au niveau bactériologique, d'accord? On parle maintenant d'une propreté. Est-ce que nos yeux voient?
Mais si après on va manger avec les mains comme ça, on a toujours les mains sales.
Ça, quelqu'un qui a mis les doigts dans le nez, d'accord. Alors, il a les mains sales, mais il n'est pas, c'est pas, c'est, il n'a pas maintenant des bactéries de test sur le bout des doigts, d'accord.
Alors,
s'il a un rhume, maintenant, il se lave les mains, ça va pas. Alors, on regarde pas les bactéries, on regarde maintenant au niveau de ce que mes yeux voient. J'avais maintenant, excuse-moi, des glaires nasales. Je suis lavé les mains sous le robinet. Je vois plus le glaire nasal. Ah, mais tu me dis, mais au niveau contagion maintenant, ok, la Torah n'est pas là pour parler de la médecine. Elle parle maintenant de notion de propreté élémentaire.
D'accord, je crois qu'on parlait de propreté. Non.
Si quelqu'un
qui dort,
mais pas tant. Si quelqu'un touche lui, ça va. Mais si touche ses mains, c'est un problème. Ouais. De même quelqu'un.
Pourquoi c'est sur les mains?
Parce que c'est là-bas que le lieu où les forces négatives, les lieux, c'est des notions kabbalistiques, les forces négatives ne peuvent pas s'attacher à la face de la personne, parce que c'est trop éclairant. S'attache aux extrémités. Les extrémités, ce sont les doigts. Normalement, on devrait faire les pieds aussi. Mais vu que la terre est tellement impure, depuis que le premier homme a été maudit, la terre aussi est impure. Alors, normalement, on devrait aussi faire les tilas des pieds, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, on est trop, ça sert à rien. On est avec les pieds par terre sans cesse. Le seul endroit de l'histoire, et le moment de l'histoire et endroit de l'histoire dans lequel on faisait Netila des mains et des pieds, c'est dans le Beth Amikdash. Dans le temple, où les Kohanim devaient le matin avoir un service, le service sacerdotal, devaient attraper avec leur main gauche le pied gauche et faire Netila ensemble. On versait sur la main et le pied ensemble. Après sur la main droite, comme ça. Netila des mains et pieds, parce que le sol du Beth Amikdash, il est saint. Autre part, c'est impur jusqu'à l'époque messianique où ça sera trop pur et on fera peut-être nettoyer des deux.
Les toilettes pourquoi?
Peut-être même que des pieds, je ne sais pas.
Les toilettes aussi.
Les toilettes, premièrement, il y a des endroits de saleté, mais deuxièmement, il y a surtout l'endroit des excréments. Quand on parle de toilettes, c'est excrément. L'excrément, c'est par excellence la mort. C'est qu'est-ce que c'est? C'est les aliments qui contenaient de la vie. Lorsqu'il y a une digestion, on a éliminé des aliments tout ce qu'il y avait comme énergie puisable pour le corps et on enlève les déchets. C'est quoi les déchets? C'est vraiment c'est nouveau le tonneau vide, d'accord? Tu avais ici une pomme, la pomme contenait beaucoup de vie, tu en as pris la vie et tu en relâches les déchets. Ces déchets, c'est le tonneau vide, c'est le reste. Le reste, c'est le potentiel de vie qui n'a pas. On lui a enlevé la vie. Qu'est-ce qui reste maintenant? Du vide. Le vide, il est impur. C'est pour ça qu'il est interdit même de penser des paroles de Torah proches d'excréments. Ces excréments dans la même chambre, ou même s'ils sont à l'extérieur, et on les voit, d'accord? Même à 1 km, tu vois, d'excréments, interdit même de penser.
Dans la salle de bain, s'il n'y a pas de WC?
Salle de bain, alors la salle de bain est interdite elle aussi. Simplement, ça dépend quelle salle de bain. Si c'est une salle de bain dans laquelle tu as la douche comme la yeshiva, tu as une douche qui est la salle, alors tout c'est considéré comme la salle de bain. Par contre, s'il y a une baignoire, alors seulement au niveau de la baignoire elle-même, l'endroit où vraiment on se lave, là c'est impur.
Pourquoi l'endroit?
À l'extérieur où on ne se lave pas, c'est pas impur, c'est-à-dire qu'on peut faire par exemple Netila, se laver les mains dans une salle de bain à l'extérieur de la baignoire. On ne fera pas la bracha dedans, non, on fera la bracha à l'extérieur.
Si, de ne pas se toucher, de se laver les mains après, se toucher le corps, c'est par rapport à la propreté. Si on vient de se laver, on n'a pas besoin de se relaver.
C'est juste. Il y en a qui disent comme ça. C'est tout propre, tout propre.
Combien de temps alors?
Un certain temps. Comme le feu du canon pour se refroidir.
D'accord.
Ouvrez un peu là avant qu'on étouffe.
Si genre dans les toilettes du soir.
Ouais, alors, les toilettes, comme je dis, ça dépend d'après la rabbinisation d'Abba Shaoul et d'autres poskim, les toilettes sont considérées que, comme que l'endroit où il y a le. Qu'on appelle ça la cuvette. D'accord ? Par exemple, quelqu'un dans une chambre d'hôtel, le seul robinet qu'il a, c'est dans la salle de bain, alors on pourra, dans les toilettes, on pourra considérer que s'il a fait un tila dans les toilettes, ça va.
S'il a rabattu la cuvette.
Même sans avoir rabattu, c'est seulement au-dessus de la cuvette que ça ne va pas. À côté, ça va. Tant que tu n'as pas mis le petit doigt au-dessus de la cuvette, ça va. D'autres disent néanmoins, toute la chambre, c'est l'endroit qui est destiné à. Donc, si on a le choix, on a un robinet extérieur, même si on a rentré le petit doigt dans les toilettes, on fait des tilas des deux mains. Si on n'a pas le choix, que si on a mis le petit doigt au-dessus de la cuvette, là on devra se laver les mains. Est-ce qu'on se lave les mains trois fois? Ça suffit de se laver les mains sous le robinet? Suffit sous le robinet. C'est bien trois fois, mais c'est pas obligatoire. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
On n'a pas de kili.
Je dis. Sous le robinet, pas de problème, tu laves comme ça après toilette. Il n'y a nulle part qu'il faut faire trois fois. Trois fois, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire.
On est dans un jardin ou dans la rue, on est tout seul,
on n'a pas. Alors, si quelqu'un doit maintenant uriner et hors des toilettes, alors il urine. Si c'est pas toucher la chair, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas se laver les mains. Si toucher la chair, alors où il y a un robinet, ou par terre, ou sur un mur, ou sur ses habits.
On peut faire le bras
sur quelque chose. Oui, bien sûr. Une fois qu'il s'est lavé les mains. Oui, sur les plans, très bien.
Et vous dites trois fois, c'est pas obligatoire, sauf le matin et pour le motif.
Trois fois pour le matin quand on se lève, c'est d'après le Zohar. Pour Motsi, trois fois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ni si, tout ce qui est Touma, c'est-à-dire se couper les cheveux, se couper les ongles, tout ce qui est Touma, il y a propreté et il y a Touma. Toilette, je dis, on peut dire que c'est propreté, et il y en a qui sont marmérim de se laver trois fois. Mais normalement,
pourquoi
sous le robinet, ça va.
Sous le lit, c'est avec la mer après.
Aussi, vu que la personne, lorsqu'elle dort, elle devient un tonneau vide, son âme part, donc il y a un vide, donc il y a des forces impures qui viennent. Ces forces impures agissent aussi sous le lit. Et si on est en aliment, même dans une boîte de conserve fermée, l'aliment, on va à la poubelle. Ou à moins qu'on lui fasse faire Netila à l'habillement. Il y a eu une question dernièrement, une dame. Elle a envoyer son fils amener à la boucherie et elle revient avec de la viande hachée. Et le gosse, il revient, il devait uriner d'urgence, alors il rentre dans les toilettes avec la viande hachée et dans la toilette, il fait ses besoins, il ressort. Elle voit maintenant la viande hachée qui est dans la toilette. On n'a pas le droit de manger cette viande hachée. Chaque chose, chaque aliment qui passait dans les toilettes, je parle au-dessus de la cuvette, interdit la consommation. Ouais, aucune différence entre cuvette ouverte ou fermée. D'accord ?
La bouteille d'eau, par exemple, est fermée. Je rentre avec dans les toilettes.
Ouais, très bien. Donc, la bouteille d'eau qui est fermée, la boîte de conserve dans le coffre blindé, d'accord, à tout le monde, elle traverse tout cela, ça devient.
Non, ça passe au-dessus de la cuvette.
Ça passe au-dessus de la cuvette, ça passe au-dessus du blindage, ça rentre partout. D'accord ?
Donc, la cuvette.
Pardon ?
Le paquet de
viande. Si, t'es aux toilettes, un petit gosse, tout ça, une petite fille, voilà. D'accord ? Alors, chaque fois qu'on a un aliment qui est impurifié, sous le lit par exemple, quand quelqu'un dormait, ou dans les toilettes, le moyen de purifier, c'est de lui faire un étila. C'est-à-dire que tu prends maintenant un clit, tu fais trois fois, tu verses dessus. Ça le rend. Alors, si c'est du pain, c'est cuit. Parce que tu mets du pain, de l'eau sur le pain, il n'y aura plus de pain. D'accord, si c'est un gâteau à la crème, ça n'ira pas non plus. La viande hachée, qu'est-ce que tu vas faire à la viande hachée? C'est un problème aussi. Tu mets de l'eau à la viande hachée, elle part. Alors un rave a eu une idée juteuse, vraiment une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est valable pour le pain, c'est valable même peut-être pour n'importe quel aliment, même le gâteau à la crème, même pour la viande hachée, on la congèle. Tu congèles le pain, tu congèles la viande hachée, tu congèles ton gâteau à la crème, et tu fais netila au gâteau à la crème, et de nouveau consommable. Ça, c'est un problème. Alors, il faut l'ouvrir, il faut congeler l'intérieur et lui faire Netila. Il faut qu'il y ait un contact direct entre l'aliment et l'eau.
Quand je sors, j'ai le
coiffeur.
Quand je sors, j'ai le
coiffeur,
j'ai jamais touché mes cheveux, moi.
Je
suis touché. Il m'a touché parce qu'il avait des jambes.
Ouais, toucher les cheveux. Faire un tila, parce qu'on s'est coupé les cheveux, c'est pas une question de propreté, c'est une question de touma. Donc, que tu aies touché les cheveux ou pas, il y a la touma.
Les médicaments sous le lit, on a dit que c'était
permis. Si on m'a coupé les cheveux.
Ouais. Il faut que tu te laves les mains. on t'a coupé les cheveux, il faut que tu fasses une Nesilat Yadayim. On t'a coupé les cheveux, ouais, tu étais une camisole de force, on t'a coupé les cheveux, au fond d'un là.
Les médicaments, pareil, c'est...
Est-ce que c'est un aliment? Alors, dans tous les cas, de toute façon, pour ce psaque-là, des aliments qui sont sous le lit, chaque fois qu'il y aura une perte financière importante, on pourra quand même consommer l'aliment. Parce que c'est vrai que c'est pas bien, mais on va pas perdre à cause de cela beaucoup d'argent. C'est quoi une perte importante? C'est pas clair. Le prix magasin, il dit le prix d'un poulet.
Ici, on dit si un gars il nous coupe les cheveux, c'est pas bien, faut pas.
Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il coupe les cheveux où il faut pas. D'accord? Il y a les parties ici qu'on n'a pas le droit de couper trop courtes. Toutes les parties ici, tout cela. Donc on a peur qu'il n'aura pas la lacha et il va te couper où il faut pas. C'est la seule raison.
La boîte à pharmacie dans la salle de bain ou les toilettes, c'est un problème.
Alors, est-ce que c'est un aliment? C'est la question.
Mais c'est touche l'eau qui va c'est pas... boire, si c'est effervescent ou quoi, je
sais pas. Tout ce qui n'est pas aliment, il n'y a aucun problème. Il faut que ce soit un aliment. Ce n'est pas un aliment, il n'y a aucun problème.
Et la bassine, la veille qu'on met pour se laver le lendemain matin,
ouais.
Elle est entamée ou pas? L'eau.
Elle est dessous?
Elle est à côté ou...
C'est pas bien de la mettre dessous, il ne faut pas la mettre dessous.
À côté,
ça va, aucun problème. On parle que sous le lit. Ce qui intéresse, c'est sous le lit.
Pourquoi sous le lit, il y a ce problème de...
Parce que c'est comme si tu es comme un mishkan, comme si tu es le lit et le support. Alors, tout ce qui est support, une notion de support, ça vient très souvent dans la Torah. Moukse Shabbat, tu prends un objet maintenant interdit, qu'on n'a pas le droit de bouger pendant Shabbat, et tu le mets sur un support, sur une assiette, toute l'assiette devient interdite. D'accord, l'endroit du temple qui est quelque part le support sur lequel la divinité vient se poser, tout le temple devient saint. Le kissé de Léonavi sur lequel vient l'âme de Léonavi l'abrite, alors tout le kissé devient... Il y a une notion de support. Le lit devient support pour une chose qui est impure, donc tout le support devient impur. Une maison dans laquelle il y a un mort, toute la maison est impure.
Alors s'il y a des lits au-dessus de, par exemple, des lits au-dessus d'une synagogue, c'est un problème?
Alors c'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors, la synagogue, ça va encore. C'est l'endroit où il y a le Aaron à Kodesh. Si au-dessus, par exemple, il y a des toilettes, c'est marqué que c'est... Ça amène des malheurs terribles. Des trucs terribles. Chemichement. Alors moi, ici, j'ai bien regardé toujours qui, quoi, donc, où, pour... C'est, oui, non. Une histoire, je vous raconte une histoire, c'est intéressant pour voir à quel point... Le stapler, Rabbi Yaakov Kanievski, décédé il y a une douzaine d'années, qui était un géant en Torah et en sainteté. Un homme que j'ai eu l'occasion pas mal de fois d'aller le voir, Baruch HaShem. Un homme qui avait le Ruach HaKodesh, il voyait tout. Et un jour, il est déjà très vieux, alors Yom Kippour ne pouvait pas aller, c'était un jour de jeûne, depuis sa maison chez lui jusqu'à la synagogue. Alors on lui a fait une petite... on a installé un lit au-dessus de la synagogue pour dormir là-bas. Mais pas au-dessus du Aaron Kodesh, de côté. Et on vient le matin et on voit qu'il il est réveillé, il était ilim. Vous n'avez pas dormi? Non, je n'ai pas dormi. Pourquoi? Il dit, je sentais la Kdoucha d'un Sefer Torah. On a dû mettre dernièrement ici un Sefer Torah dans cette chambre-là. On a fait, effectivement, il y a 10 ans, on avait laissé un Sefer Torah pendant 3 mois dans cette chambre. Les choses ont des... Il y a des vibrations négatives ou positives. Donc il y a des gens qui sont sensibles à cela.
Un verre d'eau toute la nuit qui est dernier, pourquoi il est déjà tombé aussi?
Un verre d'eau, non, non. C'est autre chose. Ça, hein, c'est marqué... Alors, les liquides.
Les liquides.
Qui sont dévoilés. On a peur. C'est du temps de Chazal. Aujourd'hui, c'était aboli. On a peur qu'un serpent vienne et y jette un venin ou n'importe quelle petite bébête comme ça et qu'il y ait une chose qui est malsaine dedans. Aujourd'hui, que les serpents au Rachel ne sont plus trop parmi nous, c'est en gros, cet interdit a été aboli. Il y en a qui se font attention, mais en gros, on peut se permettre de l'abolir. A priori, c'est mieux de recouvrir ce qui est huile, vin, eau. Et liquide Coca-Cola, je sais pas si.
Toute la nuit, je laisse n'importe quel liquide à l'air libre, j'aurai le prendre le lendemain.
Oui.
C'est pas une question de force de tout mal.
Non.
Non.
Il y a que le danger qu'un serpent est venu, il a mis. Il y en a qui seront marmérés, qui vont être sévères là-dessus. Il y en a qui disent non. Il est un peu. Ce qui, par contre, oui, est interdit, c'est d'autres choses. Un oignon qui a été entièrement pelé, sur lequel la nuit, il y a une nuit vide, une nuit qui est passée. ou un œuf qui était pelé. Ces choses-là, c'est un problème. Il y a une tshuva de Rav Yosef, il autorise les oignons, vous savez, les petits oignons en conserve comme ça en boîte, dans le vinaigre, je sais pas, d'accord, ça il autorise. Mais un oignon comme ça, tu le prends à la poubelle. Oignon, ail et œufs.
Même dans le frigo,
quoi. Même dans le frigo. Ouais, parce que ça dégage des choses très négatives. Au niveau, c'est pas une question de cachère, pas cachère, au niveau physiologique, d'accord, au niveau des toxines. Extrêmement toxiques. Je suis convaincu que si on vérifie au niveau biologique, on découvrira qu'il y a beaucoup de toxines qui sortent dans l'oignon, dans l'ail et dans les œufs au contact de l'oxygène, la nuit.
Alors pourquoi si.
Il faut qu'une nuit entière passe.
Je peux pas me quitter pour essayer de le matin, vous m'avez dit que je peux laisser toute la vie à l'air libre, ça ne peut pas taver, alors qu'il y en a qui le recouvrent.
Ouais, c'est pour faire mieux. Vu que je t'ai dit, pas obligatoire. D'accord. Absolument pas obligatoire.
Là, on le voit, les œufs, c'est terriblement dur à conserver, c'est pas facile à conserver. Très vite, ça pourrit.
D'accord. Et pourquoi la nuit, tu m'aurais dit le jour, tu laisses un œuf ouvert tout le jour, tu peux le manger le soir, il n'y a aucun problème. On considère que la nuit est passée, c'est quand on passe au petit matin. Lorsqu'il y a l'aube qui se lève, l'œuf a été pelé à 4h du matin, à 5h, l'aube apparaît, cet œuf interdit la consommation.
Et un bout de viande qu'on laisse sans surveillance.
Ça, ça n'a rien à voir, c'est encore un autre interdit, on va faire tout Shulchan Aruch aujourd'hui, Baruch HaShem. C'est bien, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas, et c'est important même sur Internet que les gens l'apprennent. Un morceau de viande sur lequel il n'y a aucun signe de distinction claire qui était sans contact optique continu est interdit. Il y aura une petite nuance, très peu de temps, quelques secondes ça suffit. Par exemple, madame prépare son steak pour la famille, il y a un téléphone dans la cuisine, il y a un téléphone dans la chambre à côté, elle revient, le steak c'est le même, il est là, simplement on ne peut pas le reconnaître, parce que c'est pas un steak, c'était un émincé de veau, d'accord, des morceaux comme ça qui est. Alors on a peur qu'il y a eu un animal qui est venu ou quelqu'un et il a changé. Même si la cuisine avec des barreaux, pour les Sfaradim on est Mahmirim, Ashkenazim on est Mekel. Alors un Sfarad donnera son morceau de viande à son voisin Ashkenaz. Et l'histoire, même si tout est fermé pour les Sfaradim. Ashkenazim, tant qu'il n'y a pas un risque que quelqu'un est venu vraiment, alors on peut autoriser cette viande. L'histoire est très connue, c'est le Rav Povarsky qui était dans l'avion en Amérique, un vol interne, et il sort son sandwich avec son morceau de saucisson dedans, et la fin de la tédaïne. Et il revient, et il regarde son morceau de sandwich, là tout à coup il sort le saucisson, et mange que le pain. Alors son voisin qui est là, qui est toujours vous savez, dans les avions, on regarde toujours ce que mange le voisin, il dit, vous mangez pas votre saucisson? Non, non. Mais il a l'air très bon, pourquoi vous ne mangez pas? Non, moi, je ne préfère pas. Je vous demande pourquoi vous ne mangez pas vos saucissons. Écoutez, je ne vais pas le manger, enfin, j'ai des bonnes raisons. Écoutez, ça m'intéresse franchement de ça. Je sais que vous êtes juif, vous avez l'air un homme pratiquant, c'est un grand rabbin. Expliquez-moi pourquoi vous ne mangez pas de vos saucissons. Allez, si vous y tenez, je vous explique. Nous, d'après la Torah, lorsqu'on ne reconnaît pas, si je n'ai pas un signe de distinction claire dans mon saucisson, ce qui est le cas parce que je n'ai pas regardé comment était mon saucisson, un morceau de viande qui, à un moment, le contact optique a été arrêté, on peut en prendre le manger. De peur que peut-être, c'est pas votre cas évidemment, mais peut-être quelqu'un est venu, il a changé. Il dit, écoutez monsieur, je suis désolé de vous dire, mais vos saucissons m'a fait tellement envie, quand vous êtes parti, j'ai pris votre saucisson et j'ai mis le mien à la place. Et je suis complètement ébahi de voir la sagesse de votre Torah. L'histoire raconte que Pourny s'est converti, d'autres disent que non, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici la sagesse de Chazal qui ont dit que c'est interdit. Grand problème dans beaucoup de cuisines. Dans les hôtels et tout ça. D'accord, tu as ton morceau de viande, tu as des frigidaires Shabbat, c'est complètement fermé. C'est bon, il faut le recouvrir. Hein. Quand tu vas, tu as un téléphone, tac, tu prends vite un couvercle, un sac, n'importe quand c'est recouvert, ça va. Même tu me diras, quelqu'un peut venir maintenant enlever le couvercle et prendre. Ok, Chazal, on dit que lorsque c'est couvert, lorsque c'est découvert, c'est interdit. Je raconte une histoire authentique. Moi, une fois, on a mis au balcon un morceau de poulet à dégeler. Et tout à coup, on voit notre poulet partir dans le bec d'un corbeau. Imaginez maintenant que j'avais un voisin non-juif qui a fait aussi son poulet, parce qu'on a enlevé le plastique, d'accord. Alors il y avait deux corbeaux, un qui a piqué mon poulet, un autre corbeau qui a piqué le poulet du voisin, et c'est tombé dans mon... Bon, ce sont des cas très éloignés, mais néanmoins, Chazal n'en fait aucune. Ils ont dit interdit. C'est certain que sous ces choses-là, il y a d'habitude des raisons beaucoup profondes aussi, au niveau kabbalistique, au niveau des choses irrationnelles. Parce qu'il y a beaucoup d'interdits que tu ne peux pas réduire à cela. Mais Chazal ont interdit, nous savons que s'il en fait, il y a des raisons extrêmement importantes là-dessous. On a vu dans le cours sur la loi orale que lorsqu'on ne fait pas les takanot, les décrets de Chazal, alors on a beaucoup de chances de voir nos descendants quitter en fin de compte le peuple d'Israël, en fin de compte au cours des générations.
Ah, il n'y a pas un cas si on trouve un sac de viande avec les, dans la même rue où il y a 5 boucheries cachères et 2 pas cachères, on a le droit de prendre le sac de viande.
Col des Paris, Nourouba Paris. C'est pas dans Tzachim, c'est dans Tzachim la Sugia. Bon, ce sont, ça c'est au niveau des dîners Taravot, c'est très compliqué. Mais on parle qu'il y aura un signe de distinction comme quoi il est cachère. C'est un morceau de poulet. Comment on va dire ? Non, c'est pas forcément que c'est cachère, c'est pas possible ça.
C'est par rapport au Rav ?
Oui, hein ?
C'est par rapport au Rav des boucheries cachères.
On parle maintenant si c'est taref ou pas. C'est taref. T'as un morceau d'escalope maintenant, il y a un escalope d'âne ou d'escalope de veau, d'accord ? Une frite à cachère ou pas cachère ? Bon, c'est des lois de. Tout dépend, si c'est ça quitter une déboucherie ou bien c'est trouver dans la rue. C'est des cas très compliqués. La référence, l'Oredéa, chapitre 110. Au Fiodo.
Mais si la majorité des déboucheries qui sont dans la rue sont.
Dépend de ce morceau-là, d'où il vient. Ce morceau. Mmh. S'il a été trouvé ici ou il est sorti dans les magasins. Il y a une différence colossale entre les deux. Col des Paris, Mérou à Paris. Il y a une autre loi qui dit Kavua, Kemersa, Almersadan. Paris, une chose qui est sortie, alors ça va d'après la majorité. Kavua, une chose que tu trouves à l'endroit où elle est, alors Kemersa, Almersadan, c'est moitié-moitié. Si tu avais 100 magasins, 99 qui sont cachères, un qui n'est pas cachère, tu trouves un morceau au milieu, il n'est pas cachère. Je disais moitié-moitié. C'est moitié cachère, moitié pas cachère. Donc on ne prend pas de risque. Si c'est, tu l'as vu sortir du magasin, c'est cachère. Tu veux d'après la majorité.
J'ai trois steaks devant moi. Il y en a deux cachères et un pas cachère. Je peux les manger les trois.
Je peux les manger les trois, mais pas à la fois, un après l'autre. Si possible, trois personnes différentes. Et c'est bien pas obligatoire d'en jeter un. Baruch Adonai, Rabbanu Amen.